Et nous avons beaucoup travaillé justement pour vous proposer ce club des têtes au carré aujourd'hui avec des éléments chimiques dans un web documentaire, un danseur dans la physique des particules, des nanomatériaux contre le cancer et puis une paléo-artiste qui se demande à quoi nous pourrions ressembler dans le futur. Vous pourrez nous rejoindre bien sûr avec vos messages, vos questions sur le site de la tête au carré franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Les journalistes grenoblois accusés de passer leur journée sur les pistes de ski, c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Bonjour.
Et c'est les scientifiques grenoblois qui sont accusés par les journalistes des accusations tenues la semaine dernière sur France 5 par la journaliste Hélène Pilichowski. Les chercheurs grenoblois répondent aujourd'hui dans une lettre ouverte et en direct dans un instant pour la une.
Voilà pour le sommaire de ce club des têtes au carré réalisé par Stéphanie Texier et qui a été préparé par Margot Dullard.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et avec mes invités Thierry Brassac, Laurent Lévy et Gilles Jobin, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Thierry Brassac, Atome Hotel, c'est donc un web documentaire qui a pour ambition de dépoussiérer le tableau périodique des éléments chimiques et vous avez un présentateur de choix pour cette série.
Ah ouais, on n'a rien moins que Dmitri Mendeleïev, effectivement,
ouais.
Qui a accepté d'être la mascotte officielle du projet.
C'est ça, et qui est à l'origine évidemment de ce tableau périodique des éléments. Votre atome, votre hôtel est ouvert depuis très peu de temps en fait. Hein.
Et oui, depuis avant-hier, exactement, in extremis. Et voilà, donc les portes ouvrent et on peut commencer à accueillir du monde sur la plateforme.
Voilà, pour rendre en tout cas les atomes sexy, on va en parler avec vous. Un nouveau rendez-vous également dans ce club tous les vendredis avec les conférences TEDx Paris. Un scientifique viendra nous parler de ses recherches. Et Laurent Lévy, c'est vous qui allez essuyer les plâtres pour cette série. En nous parlant de vos recherche sur les nanoparticules pour lutter contre le cancer. Est-ce qu'on les utilise déjà d'ailleurs pour les traitements ou pas ?
Oui, ça fait partie des nouveaux objets qui sont développés dans la santé pour soigner les patients, dans le cancer, mais aussi dans d'autres pathologies. Et nous, on a commencé et on a décidé de s'attaquer d'abord à cette maladie qu'est le cancer, parce que c'est quelque chose de très large. Et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure.
Gilles Jobin, vous êtes danseur et chorégraphe originaire de Suisse et vous allez présenter le 16 octobre prochain à Forbach en Moselle. Quantum, c'est un hymne à la physique quantique. Un spectacle qui est né de votre résidence dans le temple mondial des particules fondamentales. C'est au CERN de Genève. C'est un lieu inspirant pour un chorégraphe. Ça a bien un prix pour vous ?
Ah oui, c'est fantastique. Déjà rien que la taille du site, les bâtiments et puis tous ces cerveaux là qui circulent, c'est passionnant.
Oui, c'est là que se trouve l'accélérateur de particules, le LHC.
Fait, ouais.
Et on en parlera donc avec vous à l'occasion donc de cette présentation. Et puis nous irons retrouver la paléo-artiste Elisabeth Dénès qui présentera à partir de demain sa première exposition d'art contemporain autour d'une question : pourrons-nous choisir un jour notre visage ? Voilà pour les thèmes de ce club avec vos messages sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, les chercheurs grenoblois qui ne décolèrent pas après avoir entendu ces propos dans l'émission C'est dans l'air sur France 5.
Moi qui suis grenobloise, il y a des centres de recherche énormes à Grenoble avec des gens qui étaient nommés à vie. Comment voulez-vous qu'on cherche et surtout qu'on trouve pendant toute une vie? Quand ils arrivent à 25 ans, 28 ans, ils sont pleins d'ardeur. Puis après, ils vont sur les pistes de ski et dans les clubs de tennis. À Grenoble, c'était comme ça. C'était tous les chercheurs qui étaient là. Bien évidemment, ils sont nommés à vie.
Voilà les propos de la journaliste Hélène Pilichowski le 25 septembre dernier et sa vision donc du monde de la recherche avec la réponse des universités et des chercheurs grenoblois à toutes disciplines confondues qui est arrivée hier sous la forme d'une lettre ouverte. Bonjour Pierre Hénaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de recherche Albert Bonnio et vous êtes justement à la tête d'un de ces grands instituts dont parlait Hélène Pilichowski.
Voilà.
Est-ce que vous passez plus de temps sur les pistes de ski que dans votre laboratoire ?
Oui, je disais à votre collaborateur que c'était très sympathique de nous appeler à ce sujet-là et que nous serions évidemment tout à fait contraints d'interrompre nos activités sportives du vendredi pour pouvoir vous répondre.
Donc merci beaucoup à vous de nous accorder un peu d'antenne.
Nos lois ont certainement souris de, je dirais, du caractère absolument outrancier de ses propos.
Ça a été la première réaction d'abord.
Énormément.
C'est ça. D'abord, vous avez ri, et puis ensuite, vous avez été quand même légèrement vexé, je crois, par ses propos, et vous avez souhaité y répondre.
Voilà. D'abord, notre communauté a répondu, comme vous l'avez dit, par l'intermédiaire des directeurs d'instituts, des présidents d'universités qui ont signé une lettre ouverte. Mm-hmm. Le président de la Grenoble-Alpes Métropole a aussi répondu, donc je pense que il y a eu un certain nombre de réactions officielles, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'entre nous, on en a beaucoup parlé. Les chercheurs l'ont entendu et ont été touchés par ces propos. pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que bon, il y a un côté comique. Les chercheurs, c'est une communauté qui ne manque pas d'humour, et je pense que dans les réactions qui remontent pour Madame Pilichowski, il y a un certain nombre de réactions assez humoristiques des chercheurs. Mais aussi, ça donne une vision de notre carrière et de nos métiers qui est non seulement fausse, mais en plus qui rejette dans l'ombre les difficultés que les chercheurs ont dans leur métier et dans leur carrière aujourd'hui. Laisser croire que les chercheurs sont nommés à l'âge de 25 ou de 30 ans, c'est une aberration.
Ce serait formidable.
Comme je pense que tous les gens qui sont en contact avec le milieu de la recherche le savent bien, mais je me disais, Madame Pilichowski, je ne veux pas faire des remarques inélégantes sur son âge, ce serait déplacé, mais elle nous parle d'un temps que les moins de 60 ans, de 70 ans ne peuvent pas connaître. Moi-même, comme directeur d'un institut, je ne suis plus un tout jeune chercheur, mais je n'ai jamais connu une période où les gens étaient nommés à 25 ans. La plupart des chercheurs font de longs parcours avant d'accéder à des postes qui sont stabilisés vers l'âge de 35, pour dans le meilleur des cas, parfois 40 ans ou plus, après beaucoup de sacrifices, des postes de cas étrangers, etc. Et ce n'est encore qu'une très petite proportion de ceux qui se lancent dans la carrière de recherche qui arrivent à ces situations-là. Donc c'est tout à fait faux de laisser penser que tout le monde est en place à 25 ans et puis passe son temps sur les pistes de ski.
Et pour vous, d'où vient-elle cette image du chercheur pantouflard qui cherche longtemps sans trouver ?
Alors, j'ai beaucoup de problèmes avec cette image-là parce que ça ne correspond pas du tout à la dynamique dans laquelle nous sommes. On est dans un monde compétitif et nos instituts de recherche sont vraiment organisés de façon à répondre à cette compétition. Donc on va chercher des contrats à l'international avec les entreprises, on fait beaucoup d'innovations, on génère des start-up. Pas mal des questions justement de développement de carrière de nos jeunes chercheurs sont assumées par le fait qu'il y a beaucoup de mobilité entre les entreprises et le laboratoire. Notamment un certain nombre de nos jeunes chercheurs continuent leur carrière dans les start-up qui sont produites par l'innovation que génère un institut comme celui-ci. Et Grenoble est un endroit renommé pour ça, puisqu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'investissements sur l'innovation dans toutes sortes de domaines. Je pense que les chercheurs ont aussi un peu contribué parfois à cette image-là. Et en partie, je dirais, nous sommes une communauté jeune, avec des gens actifs qui font du sport. Il y a parfois un certain snobisme des chercheurs aussi de montrer qu'ils font tout ça avec beaucoup de facilité, qu'ils sont inventifs, créatifs. Et ils ont parfois tendance à cacher ou à masquer l'énorme masse de travail qui doit être produite pour générer cette créativité, cette innovation. Mais la réalité, c'est que vous pouvez venir dans un institut comme ceci jour et nuit, le dimanche, le samedi, il y a des gens qui travaillent tout le temps.
Donc tout le monde n'est pas sur les pistes de ski ni sur les terrains de tennis. Hein.
Je dirais, on va dire une chose, c'est que dans un site comme Grenoble, on a un cadre de vie qui est quand même exceptionnel, et que ce cadre de vie, à mon avis, contribue aussi à la qualité de l'innovation, parce que pouvoir aller le samedi ou dimanche faire une randonnée avec les collègues, etc., c'est parfois extrêmement inspirant. Ça nous permet aussi d'avoir des communautés de gens qui se connaissent bien, multidisciplinaires, qui se fréquentent beaucoup même en dehors du milieu de travail proprement dit, et tout ça participe à la dynamique d'une région très très innovante. Donc on va pas se plaindre de vivre dans un bel endroit comme ça, ça fait partie de la richesse du métier que nous pouvons faire.
Axel, une autre réaction que vous avez eue ce matin, c'est celle de Patrick Lévy, président de l'université Joseph Fourier, une des trois plus grosses universités de Grenoble justement.
Et pour lui, c'est l'image directe des chercheurs français qui étaient attaqués.
Comme président d'université, c'est vrai que je serais choqué même des propos d'Anne Pilichowski. D'ailleurs, la réponse qu'elle nous a faite n'est pas vraiment très convaincante. Elle dit qu'il a jamais été question pour elle de mettre en cause les résultats des chercheurs et que, en fait, il s'agit juste des statuts des fonctionnaires. Moi, ce qui m'a choqué profondément dans ce qu'elle a dit, c'est le fait qu'elle se prévale d'être grenobloise pour dire que, elle sait très bien ce qui se passe dans les centres de recherche grenoblois. Et qu'au fond, on trouve toute une série de chercheurs au ski ou au tennis. Et ça, c'est non seulement une contre-vérité, mais bon, c'est quelque chose qui porte atteinte à l'image même de la recherche. Il faut quand même se rappeler que les gens sont chercheurs avec des salaires sont quand même extrêmement loin de ce qui se passe dans les autres pays et qu'ils y mettent quand même beaucoup, beaucoup d'engagement. Quoi. Il y a sur les chargés de recherche, par exemple, de l'INSERM ou du CNRS, une sélection qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de candidats pour quelques dizaines de postes. Donc, je dirais que effectivement, pour la plupart des gens qui sont en CDD, en postdoc, par exemple, à l'âge de 27, 28 ans, ils ont une probabilité d'être embauchés sur un poste de fonctionnaire qui est extrêmement faible. Ce que je pense en tout cas, c'est que quand on est un journaliste, c'est quand même pas mal d'asseoir finalement des affirmations sur la recherche en général avec des éléments concrets, quoi. Et là, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi.
Voilà, Patrick Lévy, le président de l'université Joseph Fourier. Pierre Hainaut, justement, les propos de Madame Pilichowski, tant débattus, ont été tenus lors d'un débat sur la réforme des fonctionnaires en France. Si réforme il doit y avoir, quels sont les points qui sont pour vous à revoir?
Je pense que c'est très important de pouvoir, dans une carrière de chercheur, préserver le développement de la créativité, donc une certaine forme d'indépendance, et aussi la capacité des gens d'avoir aussi une certaine forme de tranquillité dans leur possibilité de se projeter vers l'avenir, parce que la recherche c'est long, c'est pas, ça se fait pas un an ou à deux ans, il faut pouvoir se projeter sur 5 à 10 ans. Donc dans la réforme des carrières de chercheurs, il faut tenir cet aspect-là en compte, c'est ça qui fait le moteur de la créativité.
Donc cette lettre ouverte, Axel, hein, qui a été publiée hier.
Et qui est à retrouver et à lire sur le site de La Tête au Carré.
Voilà, elle est en lien. Merci beaucoup Pierre Hainaut pour votre réponse. Merci beaucoup d'être passé à la une de la science aujourd'hui. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh bien c'est une nouvelle historique. Un échantillon de cerveau a été modélisé informatiquement pour la première fois. In silico, c'est son nom. C'est donc le premier cerveau artificiel, fruit du travail de 82 chercheurs du monde entier dans le cadre du Blue Brain Project. À ce jour, seule une infime portion a pu être recréée, mais cet échantillon contient à lui seul 31 000 neurones, 8 millions de connexions qui forment 40 millions de synapses. Le modèle a été mis en ligne sur un portail web qui est en lien, si vous souhaitez le voir, sur La Tête au Carré. Sur Pluton, le ciel est bleu, la sonde New Horizons n'en finit pas de nous épater. Elle nous envoie de nouvelles séries de clichés en couleur, cette fois-ci, sur lesquels on peut découvrir le magnifique halo lumineux de l'atmosphère de Pluton. Des clichés qui confirment que le ciel de Pluton, comme celui de la Terre, est bleu, mais alors que sur la Terre, le ciel bleu est dû à la diffusion du soleil dans les particules d'azote. Sur Pluton, ce sont des particules de suie qui créent ce phénomène. Une image avec ce halo bleu à découvrir sur la page Facebook de La Tête au Carré, sur notre compte Twitter. Après 7 semaines de fermeture, la Cité des Sciences rouvre enfin ses portes. L'établissement qui avait été ravagé par un incendie en août dernier va pouvoir de nouveau accueillir le public à partir d'aujourd'hui pour célébrer cette réouverture, mais aussi à l'occasion de la fête de la science. L'entrée de la Cité sera totalement gratuite jusqu'à dimanche, au programme de nombreuses animations et l'ouverture de Chiens et Chats, l'Expo. Et puis pour finir, notre vidéo du jour avec des fourmis, mais pas n'importe lesquelles, des fourmis de feu qui tentent de survivre aux intempéries, en Caroline du Sud. Pour naviguer sur les flots, ces fourmis ont été capables de se réunir en une forme de boule, formant un véritable radeau. Un radeau en constante réorganisation afin de répondre aux contraintes de la navigation. Les fourmis matelots sont elles aussi à retrouver sur nos réseaux sociaux. Allez, dans un instant, le club de La Tête au Carré avec tous nos invités. Beaucoup d'art et science aujourd'hui au menu. We'll be right back. Down, petite noire à l'instant sur France Inter.
Le club au carré sur France Inter.
Le club des têtes au carré en ce vendredi avec mes invités Thierry Brassac, Laurent Lévy, Gilles Jobin et nous rejoindra par téléphone tout à l'heure Elisabeth Dénès. Vos messages et vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et nous partons pour commencer découvrir l'Atome Hôtel avec vous Thierry Brassac. Vous êtes directeur donc du service culture scientifique à l'université de Montpellier et vous êtes à l'initiative donc de Atome Hôtel, un web documentaire collaboratif de culture scientifique. Donc on le disait, hein, il a été mis en ligne cette semaine sur la plateforme de France TV éducation. Alors qu'est-ce que c'est que cet Atome Hôtel ?
Alors Atome Hôtel, l'idée c'est que effectivement, quand il y a eu l'année internationale de la chimie en 2011, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut essayer de développer comme projet ? Et on s'est rendu compte que ce tableau périodique des éléments, c'est un peu l'icône de la chimie.
C'est vrai.
L'alphabet des chimistes, on va dire.
Et qu'on a tous eu dans notre salle de classe. Hein.
Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde le connaît. Et c'est ça qui était vraiment l'accroche intéressante avec ce tableau, parce que les souvenirs soient plus ou moins profondément enfouis, ça quand même rappelle des choses à tout le monde. Ouais. Et on s'est dit justement, on va essayer de le transformer en quelque chose d'un peu plus sympa. Quoi.
C'est ça. Il fallait le relooker en fait. Hein.
Voilà.
Il fallait trouver une idée pour le rendre plus attrayant avec les moyens techniques de notre époque.
Voilà, effectivement. D'autant plus que les enseignements aujourd'hui, effectivement, peuvent utiliser le numérique pour en faire des choses. Et en fait, il y a énormément d'histoires à raconter avec ce tableau périodique des éléments. Donc, en creusant un petit peu à l'intérieur de toute la connaissance qui peut en sortir, justement, on peut essayer de découvrir des choses.
Ouais. Donc, c'est un outil formidable que vous avez mis en place, qui nous a beaucoup séduit, et avec donc ce tableau périodique sur ce site internet, hein, puisqu'il faut cliquer évidemment pour aller voir ce web documentaire. Et puis là, donc, on peut se balader à travers tous les éléments, enfin quasiment tous, parce qu'il y aura une seconde saison qui va arriver.
Ouais, alors c'est pas les éléments aujourd'hui de officiellement reconnus, il y en a 114.
Allez.
Et nous on a travaillé avec 25 atomes. Mmh. Et on a ouvert 40 chambres. Et donc dans toutes les chambres qui sont ouvertes, il y a du contenu, il y a des petits quiz, il y a avec différents niveaux pour chimistes amateurs et chimistes confirmés, il y a des vidéos, il y a des archivinas, il y a des chroniques audio et on peut effectivement trouver du contenu qui parle de cet atome.
Et donc tout ça présenté par Dmitri Mendeleïev, le papa de ce tableau.
C'est ça, ouais, effectivement.
C'est pour ça que vous avez un petit chapeau en russe également.
Oui, c'est ça, ouais. Disons qu'on essayait d'évoquer un petit peu, en fait. À la fois, ce qu'on a voulu, c'est essayer de faire en sorte de demander aux chercheurs quels étaient leurs atomes préférés. Mmh. Et en même temps, d'être capable d'expliquer le travail qu'ils faisaient avec leurs atomes à quelqu'un comme Dimitri, en fait, comme Dimitri.
Dimitri, oui.
Voilà, Dimitri. à un moment où il est mort au moment où on commençait juste à comprendre ce qu'était la radioactivité. La radioactivité, c'est un truc qui lui a échappé complètement, en fait, parce que on va dire qu'il a un peu passé sa vie à essayer de ranger bien correctement les atomes dans des cases. Mmh. Et d'avoir des atomes qui peuvent changer de case en cours de route, je pense que conceptuellement, c'était difficile pour lui, en fait. Hein. Mmh. Et donc, Dimitri, effectivement, on lui rendait hommage. Alors, il n'y a pas que lui qui a contribué à la création de ce tableau périodique, mais lui, il a été quand même vraiment reconnu parce qu'il a eu le génie de laisser des cases vides dans son tableau en disant, aujourd'hui, on connaît 63 éléments. Je pense que à tel endroit, on va découvrir un élément, donc je laisse une case vide parce que mon tableau, il marche pas si je laisse pas de case vide.
Et il s'était pas trompé.
Et quelques années après, on en a trouvé un, puis deux, puis trois, et là, forcément, son génie a été reconnu. Ouais.
Extrait, justement, de ce web documentaire avec, par exemple, on avait le choix, le chrome.
Je suis le chrome. Je brille et résiste à la corrosion. Les voitures chromées, c'est moi. Mon nom vient du grec chroma, signifiant couleur, car je suis à l'origine de nombreuses colorations.
Voilà un exemple de ce qui nous attend quand on va surfer sur ce web documentaire, puisqu'à chaque fois on a une fenêtre qui s'ouvre avec une voix qui nous accueille, et puis des petits films aussi avec ceux qui utilisent directement ces atomes dans
tout
leur travail.
Oui, tout à fait, des petites histoires qui se sont créées un peu au hasard des rencontres, des chercheurs qui répondaient favorablement à notre appel, et puis qui avaient des histoires intéressantes à nous raconter. Donc, mm-hmm. On allait dans des dans des endroits où on pensait pas forcément pouvoir aller. On allait rencontrer des diamantaires à Paris, on a pu rentrer dans les sous-sols de la Banque de France pour l'or, et voilà, donc le projet a réussi à séduire quand même pas mal de monde.
Atome-hotel.fr hein, pour ceux qui souhaitent aller surfer. Quel est votre atome préféré, alors vous justement, Thierry Brassac?
Alors moi, plus je travaille sur ce tableau, plus le choix est difficile,
ouais.
Mais on va dire que j'aime bien le calcium.
Pourquoi?
Entre autres, parce que je suis biologiste de formation, et le calcium, c'est quand même un atome qui sert déjà à initier la première division cellulaire quand un spermatozoïde rencontre un ovule. Et puis, à chaque division cellulaire, il y a besoin de libération d'atomes dans les cellules, et puis à chaque battement de cœur et à chaque contraction musculaire aussi. Ce qui fait déjà pas mal.
Et on en a quand même quelques grammes hein, dans le corps.
Oui.
Un kilo hein.
Un kilo, ouais, pour quelqu'un de 70 kilos à peu près,
voilà,
ouais, c'est ça.
Un kilo de calcium, donc voilà, ça fait partie des informations hein, qu'on peut justement glaner au fil de la découverte. Vous travaillez avec des enseignants, parce que ça, pour eux, c'est vraiment un outil formidable. Hein.
Alors, bah là, justement, c'est la phase de travail dans laquelle on va rentrer maintenant, c'est de voir dans quelle mesure cet hôtel qui a ouvert ses portes va rentrer justement dans les pratiques pédagogiques des enseignants, va rentrer dans les habitudes des étudiants et des scolaires. Et donc là, maintenant, effectivement, on attend une appropriation et puis de même mettre en place des partenariats, parce qu'il n'y a pas de raison que les chercheurs aient le droit d'adopter des éléments chimiques. Hein. Ouais. Les scolaires, on peut faire du travail avec des classes et... on va essayer de leur proposer ce genre de partenariat.
Il y a eu d'autres tentatives dans le passé hein, pour essayer justement de vulgariser, en tout cas de rendre plus séduisant ce tableau des éléments chimiques. En Angleterre, en particulier en 1959, aux États-Unis en tout cas, c'est en anglais, voici une chanson qui se propose bien justement de donner toute la liste des atomes. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, red, and zinc, and zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Voilà, chanson américaine que vous connaissiez, Thierry Brassac.
Oui, j'en ai entendu parler. Il y a même une reprise qui a été faite dans la série télévision Big Bang Theory.
Absolument. Ouais. Ouais. Il y a aussi des versions japonaises. Hein, tout le monde s'y est un petit peu mis.
C'est ça. Alors, c'est plus dur en japonais encore.
C'est vrai. Et donc là, maintenant, on a la version web documentaire avec cet Atome Hotel qui a ouvert ses portes et qu'on peut donc visiter dès maintenant.
Voilà. Allez-y.
D'aller sur le site, tout simplement. Et puis d'autres atomes qui vont se développer au fil des mois. Vous avez mis en place une plateforme de financement participatif.
Campagne de financement participatif. Effectivement, pour essayer de commencer à réfléchir à la saison 2 et de commencer à voir quel type de partenariat aussi on peut développer avec des gens qui sont des enseignants, des gens qui sont du milieu de la vulgarisation et voilà.
Atome-hotel.fr pour vous encourager.
Voilà. Et puis on est aussi présent à la Cité des Sciences. On a un stand Atome Hotel. Donc si le projet vous séduit, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est tout le week-end à la Cité des Sciences avec un joli stand.
Voilà pour la ouverture et puis la fête de la science également. Vous restez avec nous, Thierry Brassac, on va parler de nanoparticules pour lutter contre le cancer dans un instant.
J'ai regardé la mer, j'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. J'ai regardé la terre, j'ai tant voyagé, j'ai repris tout à l'envers, mais j'ai tout abîmé, j'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver. Stay alive. I know. regardé la mer. J'ai tant voyagé, j'ai guetté l'aube claire, mais j'ai tout abîmé. J'ai tout abîmé. Je n'ai pas choisi, maintenant je m'y perds. Je n'ai pas saisi, maintenant c'est l'hiver.
Eyes on the Island, Raphaël sur France Inter.
La tête au carré. Le club sur France Inter.
Nouvel invité du club, Laurent Lévy, et nous ouvrons avec vous un nouveau partenariat avec les conférences TEDx Paris, puisque tous les vendredis, eh bien, nous accueillerons un scientifique pour nous parler de ses travaux de recherche. Alors vous êtes entrepreneur, chercheur, président du directeur de Nanobiotics et docteur en physique-chimie à l'université Pierre et Marie Curie. Ça vous a inspiré justement ce tableau de Mendeleïev là tout à l'heure,
hein, oui, avec complètement. Ça fait partie des choses avec lesquelles on travaille depuis qu'on est tout petit.
Mais c'est ça.
Et
ouais.
Puis j'ai vu que l'atome qu'on utilisait pour essayer de soigner les gens n'était pas encore présent.
Lequel?
L'hafnium.
L'hafnium,
hein. Oui. Donc ouais. On va s'en occuper, je pense.
Ouais. Pourquoi il n'est pas présent, alors?
Enfin, si, il est dans le tableau, bien évidemment, comme ouais. Tous les autres, mais il n'est pas encore illustré.
Oui. Donc ce sera peut-être pour les mois
avec,
ou les années qui
plaisir.
Viennent.
Avec voilà. Grand plaisir.
Vous étiez sur la scène du TEDx Paris en novembre 2013, Laurent Lévy, pour évoquer les nanoparticules contre le cancer. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce principe des conférences courtes, qui sont les TEDx?
Moi, c'est pas tant le format court qui est intéressant, mais plutôt la façon dont on va délivrer les messages et le public auquel on s'adresse, qui pour moi est important. On fait de la science et de la médecine pour soigner des gens, enfin en tout cas pour nous, et donc il faut expliquer ce qu'on fait. Et expliquer ce qu'on fait à travers ce type de conférence, c'est idéal. Parce qu'à la fois, on est un peu moins borné dans les idées que l'on peut expliquer, et le format aussi s'y prête beaucoup. On délivre de façon intuitive, ce qu'on a envie de raconter aux gens, avec des idées, sans qu'elles soient forcément toutes complètement ajustées jusqu'à la fin des temps, mais au moins on peut se laisser aller et délivrer ce qu'on veut.
Ouais, sauf qu'il y a un cadrage quand même, parce que vous êtes accompagné, je crois, en amont.
Oui, il y a tout un cadrage pour justement s'assurer qu'on délivre l'histoire de la bonne façon pour qu'elle soit bien captée.
Donc l'idée, c'est de trouver une histoire, au fond, à raconter aux gens.
Oui, une histoire qui interpelle. C'est vraiment le sujet. Et après, on peut traiter évidemment n'importe quel sujet. Nous, on a traité celui de la nanomédecine appliquée au traitement du cancer. Mais on peut prendre n'importe quel sujet qui est différent pour pouvoir montrer de nouvelles choses aux gens.
Et voilà l'image, par exemple, que vous aviez choisie sur la scène du TEDx à la Gaîté Lyrique en novembre 2013.
Vous voyez qui c'est Buzz? Toy Story, un type de 40 cm en plastique qui pense qu'il va sauver le monde avec une petite lumière sur son bras. Eh bien, Buzz, il a toutes les qualités de l'entrepreneur. Parce que Buzz, il a la foi. Buzz, il arrive à amener toute son équipe avec lui. Buzz, il a la naïveté de penser qu'il va changer le monde. Eh bien, c'est ça être entrepreneur. Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour essayer de faire émerger la nanomédecine, 20 ans pour essayer de faire émerger un concept qui est de pouvoir détruire des cellules cancéreuses avec des nanoparticules. On a la conviction avec notre équipe que la nanomédecine va changer la donne et va guérir un certain nombre de ses patients dans les 10 à 15 ans à venir. C'est ça pour nous déplier le monde, sans limite. Explorer les frontières de la médecine et explorer les frontières de la science. Et vous venez de Buzz. Eh bien, pour terminer, je vais reprendre une de ses expressions favorites, vers l'infini et au-delà. Vas-y, Buzz, fais chauffer.
Voilà, donc ça c'était votre image à vous, hein, Buzz de Toy Story, pour parler de ces nanomatériaux qui vous intéressent. Pourquoi est-ce que vous êtes allé, vous, sur cette piste-là, il y a 15 ans déjà, hein, Laurent Lévy?
Enfin, je pense que c'est probablement lié à ma curiosité. J'ai commencé il y a 20 ans à travailler dans la nanotechnologie, mais c'était une science un peu émergente à l'époque. Mm-hmm. Et on travaillait essentiellement à la compréhension de la matière. Comment est-ce qu'on, en changeant la taille de cette matière, comment est-ce qu'on découvre des nouvelles propriétés? Comment est-ce qu'on peut les appliquer? Et il y a une des voies qui était assez naturelle à l'époque, c'était la nanoélectronique, qui allait développer des interactions avec des atomes, avec tout un tas de choses, pour en faire des ordinateurs, pour en faire des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui me passionnait intrinsèquement, l'électronique. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres façons d'utiliser ces nanoparticules? Et en creusant un peu, j'ai vu que la santé en tant que telle, ou la biologie, était pas très occupée par les nanotechnologies. Mmh. Et donc, j'ai commencé à cette époque, comme quelques-uns dans le monde, à travailler sur ces sujets.
Ouais. Alors, c'est amusant parce que vos trois sujets sont assez complémentaires dans le monde du microscopique quand même, parce qu'on a les nanomatériaux, on a les atomes et on a les particules élémentaires. Alors, les nanos se situent où dans cette échelle, justement, Laurent Lévy?
Paradoxalement, quand on parle de nano, on pense à quelque chose de tout petit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça nano. Mais on est probablement le plus gros des objets autour de la table aujourd'hui, c'est puisqu'on parle de particules élémentaires ou d'atomes, et nous, nos nanoparticules, elles sont composées d'atomes que l'on assemble les uns avec les autres pour en faire des structures utiles.
C'est ça, et ces structures utiles, dans le cadre du cancer, justement, c'est d'aller au cœur de la cellule cancéreuse?
Alors c'est plutôt de repenser la façon dont on traite les gens. On a traité et on traite encore les gens, et de façon assez efficace, avec des médicaments, avec des outils biologiques ou chimiques, mmh. Et nous on s'est plutôt dit qu'on allait amener la physique au cœur de la cellule pour tuer les cellules cancéreuses. Parce qu'on sait que la physique, elle a un certain caractère universel, qu'elle est beaucoup moins influencée par la biologie ou la variabilité d'un patient à l'autre. Et je peux prendre un exemple tout simple, c'est que quand vous avez une cellule cancéreuse, si vous la chauffez à 30 degrés ou à 80 degrés ou à 100 degrés, plus vous allez la chauffer, plus vous allez la tuer. Et ça, quelle que soit la cellule cancéreuse. Alors que si vous mettez sur cette même cellule cancéreuse différentes chimiothérapies, vous n'êtes pas sûr que la chimiothérapie va pouvoir la tuer. Parce que la cellule mammifère, elle est vraiment pas équipée pour résister à la physique. Donc on a un outil qui peut potentiellement être ultra puissant, s'appliquer à beaucoup de gens, et ça nous fait repenser complètement la façon dont on va soigner les gens.
Alors justement, qu'est-ce qui prévaut en fait? C'est le moyen de transport qui permet d'aller vers la cellule, ou c'est aussi au fond le médicament utilisé pour la traiter?
Alors pour le coup, nous on n'utilise pas du tout de médicaments. C'est la particule elle-même qui est le principe actif. Dans notre cas, elle absorbe l'énergie de la radiothérapie qu'on utilise souvent en oncologie, en traitement des cancers, et elle démultiplie l'effet de la radiothérapie autour de la particule. Comme elle se trouve à l'intérieur d'une cellule, elle détruit plus efficacement la cellule.
Et donc, ça permet de cibler vraiment?
Plus que de cibler, ça permet d'aller au-delà des limites de la radiothérapie d'aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de patients qui reçoivent de la radiothérapie chez qui on aimerait pouvoir tuer la tumeur plus efficacement, mais on peut pas mettre toute la dose qu'on voudrait mettre dans cette tumeur à cause des dégâts qu'on fait dans les tissus sains.
Et alors c'est quoi? C'est complémentaire ou ça remplace carrément une radiothérapie par exemple?
Non, c'est quelque chose qui se fait avec la radiothérapie, mais qui permet d'utiliser et de déployer tout le bénéfice potentiellement de la radiothérapie.
Ouais. Et comment vous arrivez à guider alors ces molécules au bon endroit, directement sur la cellule, sans justement endommager l'environnement de cette cellule cancéreuse?
Alors il y a plein de façons de faire, on parle beaucoup de ciblage aujourd'hui, etc., ouais. Et de choses qui permettent d'aller adresser certains types de tissus, certaines cellules. Mais nous on a pris une solution beaucoup plus simple pour commencer, c'est qu'on injecte ces particules directement à l'intérieur de la tumeur, avec une seringue.
Donc ça, c'est vraiment hyper ciblé aussi?
Comme n'importe quelle seringue, l'aiguille est assez petite, on peut l'amener dans une tumeur. Virtuellement, on peut se dire que toutes les tumeurs que l'on peut biopsier, chez qui on peut prendre un petit élément ou un petit morceau pour en déterminer la nature, on peut y avoir accès, et donc on peut aller injecter ces nanoparticules directement dedans.
Est-ce que ça concerne tous les cancers, ou certains d'entre eux?
Ça concerne potentiellement tous les cancers que l'on peut traiter par radiothérapie, ce qui représente grosso modo 60% de tous les patients qui ont un cancer.
Ouais. Ces nanoparticules sont bien tolérées ou pas?
Jusqu'à maintenant, on a montré une très bonne tolérance de ces produits, que ce soit chez l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'essais cliniques en cours en ce moment avec ce produit-là, et évidemment bien avant, surtout les essais précliniques chez l'animal que l'on a fait.
Ouais. Ça coûte cher ou pas d'avoir recours à ce type de traitement?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de prix défini, puisque c'est encore en essai.
Donc vous attendez un marquage?
C'est ça.
Pour l'année prochaine, a priori?
C'est ça, fin d'année prochaine, ouais. Si tout se passe correctement, comme on l'anticipe. Et après, on définira un prix associé à ce type de traitement.
Vous connaissez la mauvaise réputation des nanotechnologies, en particulier en France. Elles sont très controversées. Une question de Larry, justement, sur Twitter, qui demande il nous dit ceci, des nanoparticules pour soigner le cancer, votre intervenant peut-il affirmer que ces dernières n'en provoquent pas des cancers?
Alors, vous savez, tout est toxique, c'est qu'une question de quantité. Si vous prenez la chimie, on peut dire que la chimie, ça contient de l'eau, ça contient aussi le cyanure. Pourtant, l'eau, on sait que c'est moins toxique que le cyanure. Maintenant, l'eau, ça devient toxique à une certaine quantité aussi. Donc, de dire que les nanotechnologies sont toxiques ou posent des problèmes, c'est comme de dire que la chimie, en général, pose des problèmes. Comme dans la chimie, il y a des particules qui vont être toxiques et d'autres pas ou peu toxiques. Quand on développe un médicament ou un produit de santé, on est obligé de passer par un certain nombre d'étapes, justement qui visent à démontrer que le produit qu'on utilise n'est pas toxique et qu'il offre un bénéfice potentiel aux patients. Donc on... Et vous avez raison, c'est vraiment un sujet un peu franco-français, cette notion de toxicité des nanoparticules. Et je ne dis pas que ce n'est pas une question, mais c'est une question comme pour n'importe quel produit quand on développe.
Mais
c'est normal.
Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui par rapport à la nouveauté quand même de ces matériaux qu'on utilise pour pouvoir prétendre qu'effectivement, il n'y a pas de problème du tout?
Mais on a autant de recul que dans n'importe quel médicament que l'on développe aujourd'hui. C'est-à-dire suffisamment pour pouvoir offrir un bénéfice-risque à un patient et passer à travers des autorisations réglementaires pour amener le produit sur le marché.
Voilà, donc ces nanomatériaux qu'on utilise aujourd'hui dans le traitement contre le cancer. Avant, effectivement, vous le disiez, un marquage pour 2016, donc une autorisation. Et ces prochaines conférences TEDx qui vont se produire le 1er novembre. Alors, vous n'y serez pas, hein, Laurent Lévy, ça y est, vous avez déjà fait votre prestation, peut-être pour une autre fois en tout cas. Et ce sera à 14h au Théâtre du Châtelet à Paris. Et ce rendez-vous est parrainé par France Inter.
Started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there.
Learning to Fly avec Tom Petty sur France Inter dans notre club des Têtes au Carré. Nous partons à la galerie Cazaux à Paris, rue Saint-Anastase, où se trouve Elisabeth Dénès. Bonjour à vous, Elisabeth Dénès.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes paléo-artiste et vous êtes en pleine installation avant donc le début de votre présentation demain. Le monde entier vous connaît pour vos sculptures, vos reconstitutions de personnages préhistoriques, entre autres. On vous doit par exemple la création de l'Australopithèque Lucie pour le musée de Chicago, mais également par exemple la reconstitution du visage de Toutankhamon. Je crois qu'autour de la table, un certain nombre de personnes vous connaissent. Thierry Brassac, vous connaissez bien le travail d'Elisabeth Dénès aussi.
J'ai déjà croisé, ouais. Il faillit faire un bisou à Lucie.
C'est vrai. Mais Lucie est très protégée, elle a ses gardes du corps quasiment maintenant. Et donc à partir de demain, Elisabeth Dénès, c'est un autre exercice dans lequel vous allez vous lancer, puisque vous présentez à la Galerie Cazaux votre première exposition d'art contemporain. Ce sera jusqu'au 27 octobre. Donc là, vous laissez un peu les hommes préhistoriques de côté pour vous intéresser au futur, c'est ça ?
Voilà. Alors, en fait, pendant toutes ces années, j'ai été amenée à travailler à ce qu'était la reconstitution, la restitution à partir de vestiges osseux, d'humains ou de préhumains, et aussi, bon, toute une interrogation et une recherche de divers éléments pour donner chair. Bon, et bien entendu, on ne peut pas faire un tel travail sans s'interroger, se nourrir sur ce qu'est un face-à-face avec l'humain. Et j'avais effectivement de plus en plus envie de développer une œuvre personnelle. Mmh. Et je le fais donc dans cette exposition Humain à la Galerie Jean-François Cazaux. Donc Yves Copin m'a fait ce merveilleux cadeau que de parrainer cette exposition qui est entre la science et l'art. Mmh. Nous nous connaissons bien sûr depuis longtemps. On a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Nous nous sommes vus d'ailleurs récemment à Genève pour l'exposition Lascaux. Et il me disait que je permettais que la science puisse incarner un art. Donc il est adorable, je le remercie infiniment. Et donc mon cheminement m'a amené à travailler sur la notion d'identité. Et je voudrais essayer de montrer ce qu'il y a d'éternel et d'intemporel en l'homme. Qu'est-ce que l'essence des gens qui s'aiment ? C'est ce que j'ai voulu par exemple montrer dans cette exposition dans le couple des romantiques. Ce sont deux petites sculptures en bronze. Également, je souhaite montrer la rencontre avec l'hypermodernité, le numérique. J'utilise une grande variété de formats, de matières et de traitements en repoussant et en détournant le motif du crâne. J'essaie de montrer les visages que nous aurions pu avoir et que nous aurons peut-être un jour, si telle est notre volonté d'artiste. Et la grande question, c'est jusqu'où pouvons-nous jouer avec nous-mêmes, car je me dis qu'aujourd'hui, l'ère du shopping facial s'offre à nous.
C'est quoi le shopping facial ? Alors, c'est vraiment de pouvoir choisir son visage. Alors, comme on le souhaite.
Voilà, c'est qu'un jour nous pourrons choisir notre visage. Et que bon, aujourd'hui, cette obsession de l'apparence fait que va nous amener à souhaiter le choix d'un nez idéal, peut-être dans un écrin de luxe, ou alors de se procurer un ensemble de bouches magnifiques sous forme de blister. Donc ça, vous pourrez également en voir dans l'exposition pour en changer à notre souhait, selon nos humeurs. Voilà.
Donc c'est cet espace de création que vous pouvez maintenant explorer et qui va un peu à 180 degrés par rapport à ce que vous faites d'habitude autour de la préhistoire. Mais j'imagine que vous devez prendre beaucoup de plaisir à explorer le futur. Donc ce sera à la Galerie Cazaux à partir de demain, Elisabeth Dénès.
Voilà, à partir de demain.
Puisque vous êtes en train de préparer les dernières touches pour présenter tout ça au public. 8 rue Saint-Anastase, c'est dans le 3e arrondissement. Et bien, bonne fin de préparation, Elisabeth Dénès, et merci beaucoup d'être passée dans le club aujourd'hui. À bientôt.
Merci beaucoup, Mathieu.
Au revoir.
Salut.
Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Je te laisse réfléchir.
Gilles Jobin, dernier invité de ce club, vous êtes danseur et chorégraphe suisse et vous présentez pour la première fois en France à Forbach, donc en Moselle, le 16 octobre, Quantum. C'est un hymne à la physique des particules pour 6 danseurs dans le cadre de la Biennale de danse en Lorraine, Expédition, c'est le titre de cette biennale. Alors en mars 2012, vous êtes devenu le premier lauréat d'un prix qui vous a permis de vous installer en résidence au sein du CERN, donc ce gigantesque laboratoire dédié aux particules fondamentales.
Voilà, c'est ça, donc je me suis retrouvé avec un petit bureau dans un coin comme un chercheur, comme mes collègues. Enfin, je pense qu'ils connaissent ce genre d'équipement. Et puis voilà, on m'a laissé là. Et puis j'ai dû me débrouiller pour essayer de faire un petit peu de rattrapage en ce qui concernait la physique des particules. Et puis essayer de comprendre.
C'était pas votre domaine très familier au départ, hein?
Pas vraiment, non, non, pas vraiment. J'étais vraiment ignorant. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes au début de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, dans quel ordre se passaient les choses. Et finalement, j'ai compris. Certains physiciens m'ont aidé. Et puis tout d'un coup, j'ai compris cette notion des échelles, qu'il fallait voir les choses à chaque chose à son échelle.
C'est ce qu'on décrivait tout à l'heure, au fond, avec les nanos, les atomes et les particules.
J'ai compris qu'il ne fallait pas chercher à tout lier ensemble et que chaque chose avait sa place, en fait, dans la nature.
Donc, vous étiez près de cet accélérateur de particules qui est le LHC.
Ah oui, alors super.
Vous avez pu vous y balader ou pas?
Alors, pendant ma résidence, non, parce qu'il était en activité. Mais ensuite, quand on a fait la création de la pièce, on l'a créé dans vraiment sur un des détecteurs, qui est une des quatre, qui s'appelle CMS.
C'est ça.
Et on était vraiment à 100 mètres en-dessus du détecteur.
Quoi. Il faut imaginer cet endroit absolument délirant quand même, parce que c'est comme être dans une cathédrale sous terre, avec tout le monde moderne qui vous entoure.
Oui, et puis en même temps, en surface, on a des bâtiments qui ont un petit look comme ça, un peu années 70 encore. Donc on est vraiment dans cette espèce d'âge atomique, cette espèce de mythe qu'on a vécu, nous, les gens de notre âge, hein, cinquantaine d'années, on est vraiment des enfants de l'atome, quoi. Donc il y a aussi toute une esthétique, et puis... Peter Higgs qui a prédit le boson de Higgs, il l'a prédit en 1964, c'était l'année de ma naissance. Il a l'âge de ma mère, 89 ans. Donc c'est le temps d'une vie, quoi. Alors moi j'ai passé que 3 mois, hein. Alors je reste modeste dans mes découvertes.
Ouais. Comment on s'y prend alors quand on est chorégraphe pour imaginer un spectacle pour 6 danseurs consacré à la physique des particules? Parce que c'est là que commence quand même la difficulté, hein.
Oui, parce que vraiment, hein, cette problème d'échelle, tout ce qui se passe au niveau quantique, ça n'a juste rien à voir avec notre réalité. C'est complètement contre-intuitif. Je me suis fait aussi aider par, j'ai eu 2 physiciens qui sont venus m'aider, Nicolas Chanon, qui travaille sur CMS, qui est maintenant chercheur au CNRS d'ailleurs.
Ouais.
Il a gradé, mais en fait, il a baissé son salaire. Hein.
Ouais.
Les scientifiques travaillent beaucoup, j'en ai été témoin, ils ne font pas du ski.
Et
Michael Dozer qui s'occupe du laboratoire d'antimatière. Alors j'ai la chance de les avoir dans mon studio, dans mon laboratoire, et puis ils nous ont aidé un petit peu à rester cohérents, disons, dans les principes. Et moi, ce que je cherchais, c'est ce que j'appelle des générateurs de mouvement, c'est-à-dire des règles comme des algorithmes, en fait, que je programme, en fait, mes danseurs en leur donnant un certain nombre d'indications, et puis en fait c'est eux qui peuvent générer le mouvement à partir de ces indications.
Donc ça veut dire qu'à chaque représentation on n'a jamais le même résultat?
Non, dans ce cas-là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à écrire une chorégraphie très précise. Donc ils composent, mais au lieu que ça soit moi qui montre le mouvement, ils l'apprennent, il est généré par eux-mêmes. Alors on utilise par exemple les 4 forces fondamentales, l'électromagnétisme, des changements de température, on a utilisé, c'est-à-dire changé une condition qui fait que les choses se passent différemment en fonction de la température. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Les symétries, beaucoup, ça c'est vraiment les physiciens qui nous ont amené cette question des symétries. Moi je pensais qu'on était asymétrique ou asymétrique, hein. Comme tout le monde. Eh bien non, en fait, il y a plein de symétries différentes, c'est assez passionnant. Et puis on a même utilisé des diagrammes de Feynman pour décrire des interactions entre danseurs. Alors ça, c'était magnifique parce que les danseurs étaient à 4 pattes dans le studio en train de dessiner leur diagramme de Feynman, aidés par les physiciens. Et c'était étonnant de voir des danseurs qui n'avaient vraiment aucune formation scientifique s'étaient approprié cet outil.
Là, on entend la musique de Carla Scaletti, qui s'est inspirée des données réelles de l'accélérateur de particules,
plus que ça,
c'est ça, hein.
Elle a vraiment... elle crée la musique par un processus de sonification, donc elle génère la musique à partir de données réelles du LHC. Alors comment elle le fait, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un vrai processus qui a été inventé, je crois, par un cosmologue qui a développé ce système pour que ses élèves qui étaient aveugles puissent entendre les données. Donc l'idée, c'est de faire l'observation de données, en fait, pas forcément de faire de la musique.
Voilà, donc on peut se projeter un petit peu dans la musique aussi des particules grâce à ce travail. Et puis aussi toute la partie visuelle avec Julius von Bismarck, hein, qui a un rôle très important aussi dans ce spectacle.
Julius était le premier artiste résident sous ce programme, hein, qui s'appelle Arts at CERN, sous le sous-titre Collide at CERN, donc les collision en fait au CERN. Oui. Et il était juste avant moi. Et quand il a présenté son projet, qu'il avait la pièce qu'il a réalisée suite à sa résidence, c'était ces quatre lampes industrielles qui tournent comme ça, qui sont à la fois synchronisées, qui se synchronisent et se désynchronisent. Et je lui dis ah mais ce serait parfait pour une pièce de danse. Il me dit bah oui alors allons-y. Et puis voilà, j'ai produit le truc et puis ça y est, et puis ça tourne. Alors on pensait que ça serait une pièce très compliquée et qui demanderait des conditions pas possibles pour la faire. Et en fait, il s'est trouvé d'être une pièce extrêmement flexible et on a vraiment beaucoup voyagé avec la pièce et ça continue.
Ouais. Est-ce que c'est un moyen pour vous de sensibiliser justement les gens à la physique, de rendre accessible en tout cas cette partie un petit peu complexe quand même de la science ?
Alors oui et non. Enfin en tout cas moi je suis jamais parti sur l'idée d'illustrer. On va pas voir, on va pas comprendre mieux la physique. Moi mon but c'est vraiment de mettre le mouvement en action et trouver des nouvelles manières de générer du mouvement, des nouvelles raisons de bouger en fait.
Avec toute l'abstraction que ça comporte.
Et alors moi ce qui m'a intéressé et ce qui m'a passionné c'est justement d'être dans l'abstraction la plus totale et de n'avoir pas de thème et pas d'histoire et pas de déroulement. Donc j'étais heureux parce que vraiment j'ai pu me laisser aller dans une totale abstraction. Mon père était peintre abstrait, peintre géométrique et je crois que là j'ai pu me laisser aller.
Et ben voilà, donc effectivement libre, inspiré par la physique mais libre dans la création. C'est le Quantum Gilles Jobin que vous présentez donc le 16 octobre prochain, une représentation donc en France, ce sera à Forbach à l'occasion de la Biennale de la Danse en Lorraine au Carreau Forbach, et puis vous jouerez encore deux jours fin octobre à Genève.
Voilà, oui, au Théâtre Forum Merin, tout près de Genève, à quelques centaines de mètres du CERN d'ailleurs.
Voilà, le 30 et le 31 octobre
et ensuite
prochain.
En Inde, s'il y a des gens qui nous écoutent en Inde, New Delhi, Bangalore, on y sera.
Mais je suis sûr qu'on a des auditeurs qui peuvent nous capter sur internet. Merci beaucoup en tout cas à Gilles Jobin, merci Laurent Lévy et Thierry Brassac. Toutes les infos des sujets dont nous avons parlé sont évidemment en lien sur le site de la Tête au Carré. N'oubliez pas le best-of également concocté par Stéphanie Texier. C'est le meilleur de la semaine. Tous les moments que vous avez peut-être manqués. En 10 minutes, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur franceinter.fr.